France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Paris est un roman. Paris est un roman, la formule n'a pas vieilli, on peut toujours la réactualiser. Lorsque les Îles-de-France, au début de l'année 1994, s'intéressaient à cette formule, c'était pour accompagner une programmation de films à la Vidéothèque de Paris, aujourd'hui nommée Forum des Images, toujours présent dans les mêmes lieux, en plein cœur du Forum des Halles à Paris. Les films dont il était question ne sont évidemment pas présentés dans la même programmation, mais peut-être que les cinéphiles pourraient voir de temps à autre, à la demande, Plus de vacances pour le bon Dieu, 3 milliards sans ascenseur, Zazie dans le métro, Monsieur Taxi en remontant la rue Vilain, ou encore, et l'intitulé donne très envie, Gigot, clochard de Belleville. Les Îles-de-France, Paris est un roman par Sylvie Andreux, première diffusion sur France Culture le 7 mars 1994.
Paris est un roman dont la fin reste bien sûr à écrire et les Îles-de-France sont aujourd'hui sur les traces des lieux, des parcours et intrigues romanesques dont les plus belles images sont à voir à la Vidéothèque de Paris jusqu'au 8 juillet. Paris est un roman sans doute, mais faut-il forcément l'adapter au cinéma ? Paris est un roman, certainement, mais que cache ce titre au carrefour de l'écrit et de l'écran et qui à lui seul recouvre presque toutes les vocations de la Vidéothèque qui, sur des écrans solitaires ou sur de grands écrans, fait revivre amoureusement la mémoire de Paris et l'actualité parisienne. Paris est un roman qui n'a cessé d'inspirer le cinéma puis la télévision et dont les transpositions à l'écran, fidèles ou scabreuses, suscitent immanquablement les réactions des lecteurs cinéphiles. La radio est aujourd'hui à la croisée de la littérature et du cinéma et la première scène se passe sur les Champs-Élysées.
Champs-Élysées, séjour des héros et des hommes vertueux, sont une partie des enfers.
Le royaume des ombres est plus ombre que les ombres des étoiles, les ombres illustres des étoiles illustres qui ne consentent à se montrer que dans les salles obscures, comme ici par exemple. Et ces séances d'évocation magique ont lieu grâce à un appareil merveilleux, le cinématographe, inventé par Lumière en 1895. Et si l'on ne va pas au cinématographe, si, par extraordinaire, on ne va pas au cinématographe, alors on se contente du spectacle gratuit que l'on s'offre mutuellement. Ceux qui passent regardent ceux qui sont assis, et ceux qui sont assis regardent ceux qui passent, puis ceux qui passaient s'assoient, etc. Il est un temps pour se promener, et il est un temps pour boire, il est aussi un temps pour se retirer du monde et méditer dans la solitude. Mais l'heure passe. Le jour va bientôt finir et la nuit tomber. Les charmes des bancs publics ne sont pas infinis. Encore un peu de patience et l'on va pouvoir rentrer chez soi.
Mmh. Extrait de Champs-Élysées de Walter Caron et de Roger Théron, documentaire noir et blanc, 1953. Paris est un roman avec en direct Jean-Marie Thomas qui est le directeur des programmes de la Bibliothèque de Paris, Robert Bobert qui est réalisateur et écrivain, Mohamed Boujedra qui est architecte de formation, mais qui l'est peut-être resté d'ailleurs, et qui est écrivain en tout cas puisqu'il publie un premier roman Barbès Palace, et Alain Pocard qui est écrivain et qui est critique de cinéma. Jean-Marie Thomas, j'ai le sentiment que Raymond Queneau, dont nous venons d'entendre la voix, ou en tout cas un extrait de la voix, exprime en partie votre pensée, ou en tout cas la politique de cette programmation Paris est un roman, et que finalement, vous êtes d'accord avec le fait que le spectateur a le choix entre le spectacle de la rue et le cinématographe ?
Oui, tout à fait, parce que d'abord le cinéma est né sans doute avec la ville, et que par conséquent, séparer le cinéma et la ville, bien qu'il y ait des films remarquables sur la campagne, est quand même quelque chose d'assez ardu. D'autre part, la ville au 19e siècle, mais aussi avant dans la littérature, a toujours été très présente, et le cinéma à son début, dans un souci de rencontrer le public, a ardemment utilisé les thèmes et les formes qui était celle de la littérature antérieure.
Alors, cet extrait que nous avons entendu est un documentaire, un film sur les Champs-Élysées que nous allons voir à la Bibliothèque de Paris. Alors, je le disais en ouverture de cette émission, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre un peu faible, Fleuve, Paris est un roman ?
L'idée, la structure sans doute de cette programmation, c'est l'idée écrire, filmer Paris. C'est-à-dire, c'est juxtaposer ce qui est écrit et ce qui est filmé sur Paris. Et naturellement, on se dit, puisqu'on les juxtapose, on va penser à l'adaptation, à la manière dont l'un est, dont on est passé de l'un à l'autre. En fait, moi, je crois que c'est un problème qui est complètement dépassé, ce problème des adaptations. Je crois qu'aujourd'hui, le cinéma, après 100 ans d'existence, est devenu un art autonome. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que cet art autonome nous apporte fondamentalement en tant que lui-même. Et vous commencez l'émission avec Queneau, je dirais qu'on ne voit pas Queneau à l'image, on ne lit pas Queneau comme on l'a dans les mains quand on a un livre de lui, mais soudain on a quelque chose d'extrêmement précieux, c'est-à-dire au travers de sa voix, du ton de sa voix, de ses silences, de ses arrêts, des accélérations, on a sans doute une forme de pensée qui est celle-même de Queneau. Et c'est vrai pour des tas d'autres écrivains, quand on voit le film d'Astruc pendant 2 heures, où l'on entend Sartre et Beauvoir parler, non seulement on écoute ce que dit Sartre ou ce que dit Beauvoir, mais aussi on voit la manière dont ils réfléchissent. Et je crois que ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que soudain, alors qu'au départ, on s'est dit le cinéma adapte, le cinéma s'inspire, le cinéma, comme si dans la vie, on faisait des choses étrangement nouvelles, soudain. Non, en fait, le cinéma s'est servi de tout un ensemble de choses qui existaient et apporte sa marque propre. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que dans l'acte de filmer est original et particulier. Et c'est ça, je crois, cette sorte de rencontre entre les deux qui est la thématique même de ces 4 mois de programmation.
Alors, combien de documents mis à disposition du public ?
Il y a environ 250 films qui sont soit des films de fiction, soit des séries télévisées, soit des documentaires sur qui sont des portraits d'écrivains, qui sont des documentaires sur des périodes de la littérature et qui révèle tour à tour à partir de cette idée première qu'il doit y avoir au départ toujours la littérature un visage ou des visages de Paris.
Alors justement dans cette programmation spéciale de la Bibliothèque de Paris, est-ce que l'écrit et l'image seront traités à égalité ?
On va essayer de faire quelque chose d'assez nouveau. Par exemple, on va avoir des lectures de films. C'est-à-dire qu'on va demander à un ensemble d'acteurs ou d'actrices de venir lire des films. Et l'idée, c'est que nous ne sommes pas partis...
Qu'est-ce que vous entendez par lire des films ?
Des lectures de textes, pardon. C'est un lapsus.
Ah bon,
bon, mais c'est bien ce genre de truc. De lire des textes. On n'est pas partis de ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une projection de film. Et avant cette projection de film, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler du film, on va dire des choses, on va faire venir quelqu'un. Non, là, on a fait des juxtapositions, c'est-à-dire qu'on a choisi de prendre avec un acteur, un sujet donné et ce sujet de le traduire d'une part par la lecture de textes existants et d'autre part de films. Par exemple, avec Françoise Lebrun, on va lire, elle va lire tout un ensemble de textes érotiques de la littérature française, après quoi on projettera le film de Jean Genet, Chant d'amour, et après quoi on projettera le film de Louise Buñuel, Belle de jour.
Mais Jean-Marie Thomas, est-ce que vous ne vous éloignez pas quand même du thème un peu contraignant qui est Paris dans cette histoire ? Est-ce qu'on va retrouver Paris dans vos images ?
Pas du tout, parce que tous les films qui ont été sélectionnés sont des films qui sont soit des œuvres romanesques qui, à l'origine, traitaient de Paris, soit des écrivains qui ont vécu à Paris. Alors il y a évidemment, par exemple, tous les écrivains américains, les écrivains latino-américains comme Cortazar, qui ont vécu à Paris, qui se sont attachés à Paris. Et ce que l'on a pris de chacun d'eux, c'est ce qui est relatif à Paris. Si on prend Chant d'amour de Jean Genet, c'est parce que Chant d'amour de Jean Genet se passe, a été tourné d'abord dans Paris, au-dessus de la Rose Rouge, dans un décor au-dessus de la Rose Rouge, mais aussi parce que c'est la prison de la Santé.
Alors Robert Bobert, vous serez, vous, à la Vidéothèque, parce que votre film En remontant la rue Villain, que nous avons vu sur Arte en 1992, à la fin de l'année dernière, est un des films invités donc, de cette programmation. Est-ce qu'en tant qu'amoureux, baladeur de Paris, c'est comme ça que vous vous appelez, vous êtes arrivé à Paris, vous aviez un an et demi, il y a déjà quelques années, est-ce que vous irez, est-ce que vous attendez des choses de cette programmation ? Ou est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vu beaucoup de choses déjà ?
Oui, j'ai déjà vu beaucoup de choses, mais moi je suis plutôt du genre qui va revoir les choses ou les lieux ou les gens plutôt que de les voir pour la première fois. Je sais pas si c'est un défaut.
Donc, vous voulez qu'on vous montre ce que vous connaissez déjà ou presque ?
C'est sûrement un défaut, mais bon, mais c'est comme ça. J'irai peut-être voir Casque d'or pour la 20e fois plutôt qu'un film que je ne connais pas.
Donc la Vidéothèque est un lieu qui est fait pour vous, qui travaille en permanence sur le patrimoine et sur la mémoire de la capitale.
Oui, c'est la mémoire, ça fonctionne en deux temps. Je crois qu'il y a ce qu'on vit quand on est enfant et on n'en mesure pas toujours l'importance, ou même pas du tout l'importance. Et c'est plus tard, bien plus tard, qu'un événement, une promenade, un regard, un sourire nous renvoie à quelque chose de l'enfance qui était là. Et voilà, je crois que
et votre enfance, c'est Paris, bien sûr. Mais ça,
mon enfance, c'est Paris.
C'est Paris. Ouais, ouais. On va d'ailleurs l'enfance de chacun des invités autour de ces micros, c'est Paris. Jean-Marie Thomas, vous n'aimez pas beaucoup alors le mot d'adaptation. Vous trouvez que bon, il n'est plus en cours aujourd'hui. Vous le remplacez par quoi ? Parce que c'est une des orientations importantes de cette session sur Paris.
Moi, ce que je pense qui est intéressant, c'est la confrontation. Ce qui est intéressant dans l'œuvre d'art, c'est l'originalité du regard. Bon, donc c'est pas ce dont on est parti. Par conséquent, que à un moment ou à un autre, un écrivain soit adapté par un cinéaste est une chose intéressante. Le cinéaste peut avoir envie d'aller très profond dans la découverte de l'écrivain, et à ce moment-là, l'adaptation qu'il va faire d'une œuvre, elle est liée à la découverte, à la lecture personnelle que ce cinéaste va faire de l'écrivain. Ou bien il va saisir un prétexte comme dans toute l'histoire des arts, des gens ont saisi des prétextes antérieurs. La Fontaine travaillait à partir des Aupes, Mozart a travaillé à partir de prédécesseurs, Corneille également. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens. Et à ce moment-là, le problème de la source est moins important que le problème de ce que nous allons voir au travers d'un art autonome.
Vous défendez le cinéma dans cette
non,
affaire.
Non, je défends.
Et c'est bien normal.
Je défends le cinéma, je défends la télévision, mais je pense.
Vous défendez l'image.
Moi, vous savez, je pense qu'il y a des écrivains qui sont dont la chose la plus extraordinaire qu'ils ont fait est un film.
Vous me disiez, on en reparlera au cours de cette émission, mais par exemple, Pérec vous trouble beaucoup au cinéma.
Oui, moi, Pérec me trouble plus au cinéma.
C'est ça. On voit un film de Pérec qui est un homme qui dort. Oui.
Les lieux d'une fugue et un film qui n'est pas programmé ici, qui s'appelle Les récits de Ellis Island, sont des films qui me troublent très très profondément, beaucoup plus que ce que je lis.
On peut peut-être conseiller alors à un certain nombre d'écrivains de prendre la caméra. En tout cas, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Je n'emploie pas le mot d'adaptation, mais une réussite peut-être du passage de l'écrit à l'image. On la doit au tandem Raymond Queneau et Louis Malle, un comique absolument dévastateur et qui fonctionne à la perfection 30 ans plus tard.
Hey morale.
Salaud, les vaches, m'a fait ça à moi.
Il n'y a pas qu'à toi qui font ça.
Je m'en fous, n'empêche que c'est à moi que ça arrive. Moi qui étais si heureuse, si contente et tout de m'aller voiturer dans le métro. Ça crable merde alors.
Il faut se faire une raison.
Et quand est-ce qu'il va finir cette grève?
Je sais pas, moi, je fais pas de politique.
C'est pas de la politique, c'est pour la croûte.
Et vous, monsieur, vous faites quelquefois la grève?
Madame, faut bien pour faire monter le tarif.
On demande plutôt que vous baissez votre tarif avec une charrette comme la vôtre. On fait pas plus dégueulasse.
Paris, quelle belle ville! Tiens, Zazie, regarde! Le Panthéon!
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre?
C'est peut-être pas le Panthéon.
Ah non, 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 et non, c'est pas le Panthéon.
Et qu'est-ce que ce serait alors, d'après toi?
J'en sais rien, mais c'est pas le Panthéon.
On va demander un passant!
Le passant, c'est tous des cons.
Ça, c'est bien vrai.
Ah, mais j'ai trouvé! Ton Panthéon, c'était la Madeleine.
Peut-être, mais maintenant, c'est du passé, n'en parlons plus. Tandis que ça, petite... Regarde-moi si c'est chouette comme architecture. C'est les Invalides.
On te tombe sur la tête. C'est tout au plus la caserne Reuilly.
Dis donc, tonton, quand vous déconnez comme ça, vous le faites exprès ou c'est sans le vouloir?
C'est pour mieux te faire rire, mon enfant.
La vérité, c'est que tantôt on le fait exprès et tantôt pas.
Si c'est pour vous moquer de moi, je peux vous dire que vous n'êtes que deux vieux cons.
Qu'est-ce que tu veux? C'est la nouvelle vague.
La nouvelle vague, elle commence.
Ouais.
Oui, ça va, enfin.
Mais enfin, Zazie, si ça te plaît de voir vraiment les Invalides et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai.
Napoléon, mon cul? M'intéresse pas du tout cet enflé avec son chapeau à la con.
Mais qu'est-ce qui t'intéresse, alors?
Mais oui, qu'est-ce qui t'intéresse?
Le métro.
Alain Pocard, vous êtes écrivain, vous êtes critique de cinéma, vous avez collaboré au Dictionnaire du cinéma, qui ouvrage collectif sous la présidence, la direction de Jean Tullard. Oui. Alors je ne sais pas si Zazie dans le métro est dans la liste des films que vous aimez sur Paris.
Bien non, parce que j'ai fait une liste avec essentiellement des films qui ne sont pas connus, pensant apporter là une meilleure contribution à l'histoire.
Alors, je vous ai demandé d'ailleurs de faire une liste parallèle, et les films que vous aimez, on va le voir, ne sont pas forcément sélectionnés par les programmateurs de la Cinémathèque ou de la Vidéothèque de Paris. Parce que vous avez une fâcheuse tendance à la série B, vous.
Ah ben, la série B, non, parce que pour des films français, ça n'existe pas, la série B. Hein. C'est un mode de production typiquement américain. Non, c'est simplement que je voulais trouver des films qui parlaient d'endroits de Paris plus difficiles à montrer ou plus rares. Et puis, surtout, j'ai voulu les faire par décennie. J'en ai fait un par décennie. Et vous allez voir, je vous assure qu'il n'y a absolument aucun chef-d'œuvre parmi eux. On commence. Alors on commence par les années 40, par un film de 1949 de Robert Vernet, qui s'appelle « Plus de vacances pour le bon Dieu ». Ça se passe à Montmartre, sur la butte Montmartre, à une époque où les maisons qui aujourd'hui sont habitées par des gens très chics, avec des digicodes à l'entrée et puis des poutres apparentes, étaient des taudis avec les toilettes sur le palier. Et pour tous ceux qui ont connu d'ailleurs Paris dans les années 50 et même encore un peu 60, c'était ça. Et c'était une bande de gamins, bah on disait d'ailleurs des poules beaux, ça se dit d'ailleurs de moins en moins, qui habitait le quartier et qui allait voler des chiens dans les beaux quartiers aux dames, et après il les rendait contre récompense, évidemment. Alors, jusqu'à ce qu'un brave flic interprété par Belpétré, se doutant du coup mais n'étant pas foncièrement mauvais, déjouait le poteau rose et tout rentrait dans l'ordre. Et alors on voyait des endroits à 100 mètres de la place du Tertre, qui aujourd'hui est noire de monde, et aujourd'hui et hier, qui sont absolument déserts, qui sont des petites rues vraiment de ville. C'était l'époque où Montmartre était un village et non une réserve indienne.
En un mot, Jean-Marie Thomas, vous avez ce film dans vos réserves?
Non, parce que moi j'ai le souvenir de ce film, je l'ai vu quand il est sorti, mais se pose de façon permanente l'accession au matériel. Et donc il y a des films qui sont par nature pérennes, parce que on tire des copies de temps en temps, et donc ils se maintiennent. Et puis il y a des films qui disparaissent complètement de l'oubli, et ça c'est un film...
Écoutez, je l'ai vu il y a moins de 10 ans, la Cinémathèque, une très belle copie à Chaillot.
Oui, c'est
alors
possible.
On poursuit Alain Pocard. Années 50.
Alors, par années 50, un film de 1952 d'André Hunebelle, immortel auteur d'une bonne version des Trois Mousquetaires, avec Bourville, Monsieur Taxi, avec Michel Simon, et alors derrière, des gens magnifiques,
tout le monde a l'air de connaître. Là. Ouais,
Pauline Carton, et puis le grand Brochard, qui est vraiment admirable. Alors ce film, je le cite pour des tas de raisons, mais essentiellement, d'abord parce qu'on voit la place des fêtes, la vraie, pas celle qu'on nous a faite vers 73-75.
Celle qui a été revisitée il y a une quinzaine d'années.
Ça mériterait, mais vraiment des coups de bâton sur les omoplates, ce qui s'est fait place des fêtes. Et Michel Simon est chauffeur de taxi. Alors ce qui m'a beaucoup amusé d'abord, c'est quand il parle d'embouteillage, on le voit dans sa voiture, les rues extrêmement larges sont absolument vides de voitures, il se plaint. Et puis surtout, il y a une chose que montre ce film, et là c'est sociologiquement très important, c'est qu'effectivement, dans les années 50, il n'y avait pas la journée continue, il n'y avait pas les restaurants d'entreprise, on ne mangeait pas sur le pouce, on rentrait entre midi et 2 heures déjeuner chez soi. Et on le voit qui est, par exemple, à la Concorde ou à la Madeleine, et qui dit « Ah, oh là là, il est midi moins le quart, au midi, bon, je remonte chez la patronne. » Et il arrive chez lui dans un petit rez-de-chaussée sur cour, et là, il déjeune pendant 1 heure, d'ailleurs toujours arrosé avec du rouge qui ne veut pas être de très grande qualité, et il repart pour le travail. Quoi. Alors, et ça, c'est complètement obsolète.
Alors, plus près de nous, années 60 ?
Années 60, alors là, je vais vous faire un petit peu tiquer, car j'ai mis un film américain. Et oui, j'ai trouvé quand même qu'en ces périodes d'exception culturelle, ça n'était pas mal de rendre hommage à un Américain francophone et francophile.
Surtout quand il parle de nous.
Et ben voilà. Alors il s'agit d'un film de Gene Kelly qui s'appelle en anglais Gigot, mais en français, il s'appelle Gigot, clochard de Belleville. Alors, de l'autre, c'est pas tout à fait un clochard, parce qu'en fait, Gigot, interprété par Jackie Gleason, est gardien d'un immeuble et il dort dans la cave. Alors, il est un peu demeuré, pas trop. Mais alors, surtout, il a un petit défaut, une qualité, je ne sais pas comment on peut l'apprendre, qui sort peut-être de drôles de drames. Il adore aller aux enterrements et présenter ses condoléances. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que Kelly, tout en s'entourant d'une équipe en partie française, notamment la musique orchestrée et conduite par Michel Magne, la direction artistique est française, etc. Il s'entourait aussi d'acteurs français, Gabriel Dorzia, Jean Lefebvre, Jacques Marin, Albert Rémy, etc. Et il y a même eu sur le tournage du film, miracle, il y a eu la visite de Bardot, qui est venu dire bonjour à tout le monde. Et ça se passe à Belleville en décor naturel et aux joies. On voit la rue Villain, cette rue qui se termine par un escalier bicéphale.
Je vous interromps, on reprendra votre liste au cours de l'émission, mais puisque vous avez parlé de la rue Villain, Robert Bobert, vous avez vu ce film ?
Non, je connais les photos de ce film qu'on a voulu me faire passer pour de vraies photos, du moins des photos de vrais lieux, mais on voit tout de suite que c'était un tournage qui était en fait exactement Passage Villain. Le Passage Villain était en tout couvert d'affiches, de petites barques, etc. Et ce passage était transformé.
C'est pas du studio. Hein.
Oui, je sais bien. Ah oui, ça a été tourné. La caméra placée rue Piat, plongeant dans le Passage Vilain.
On la voit même de l'autre côté, je crois, aussi.
Robert, moi, je tenais absolument à vous avoir dans cette émission, parce que c'est vrai que pour vous, Paris est doublement un roman. Dans l'ordre, 1992, donc je le disais au début de cette émission, en remontant la rue Vilain, donc un film que vous avez tourné et qui a été programmé sur Arte à la fin de l'année 1992, et plus près de nous, 1993, au début de l'année, donc chez l'éditeur Paul, Quoi de neuf sur la guerre. Alors, vos premières marches, on va dire un mot quand même de vos premières marches dans Paris, elles apparaissent avant le cinéma, avant votre amour pour le cinéma, avant votre métier de cinéaste, avant la photographie, vous n'êtes pas photographe, mais vous aimez les photographes, avant votre travail d'écrivain, et finalement, vos premières sorties dans Paris, quand vous êtes devenu baladeur, eh bien c'est autour de la rue de Turenne, dans le quartier du Marais, et au lendemain de la guerre.
Oui, enfin, pas exactement. C'est à la fois...
C'est là que vous avez découvert un plaisir qui ne vous a plus quitté.
Oui, en fait, j'ai été tailleur avant d'être baladeur, puisque j'ai commencé à 15 ans à travailler dans des ateliers rue de Turenne et ailleurs, puisque c'est là ce que se trouvaient tous les ateliers. Moi, j'ai commencé en 47 jusqu'en 53, et puis en cours de route... Et il m'est venu ce goût de Paris et les balades, je connaissais plutôt dans mon quartier qui est la Butte aux Cailles. J'ai habité la Butte aux Cailles pendant 20 ans.
C'est pour ça que vous y revenez aujourd'hui,
de 37
à la case départ.
De 37 à 57. Tout. Et mon plaisir était de me promener dans Paris. Et plus tard, j'ai vu, tout à fait par hasard, en voyant les photos de Robert Doisneau et de Willy Ronis, qu'on pouvait, à travers un moyen d'expression comme la photographie, transmettre, je ne sais pas si le mot est tout à fait juste, le plaisir qu'on avait à se promener. Et puis de là, de la photographie, je suis arrivé au cinéma, en voyant les premiers films tournés en studio de René Clair, 14 juillet, Sous les toits de Paris, etc.
Alors, si Paris est un roman, et c'est le titre de notre émission, et la programmation de la vidéothèque jusqu'au début du mois de juillet, l'atelier de confection que vous décrivez magnifiquement dans votre roman, atelier de confection pour dames, donc de la rue de Turenne, dans le 3e arrondissement de Paris, dans le quartier du Marais, où se retrouvent les rescapés des camps, et bien l'atelier est un théâtre.
L'atelier est un théâtre, je crois que tous les...
On peut dire aussi que l'atelier est un roman. Enfin, vous préférez le théâtre?
Oui, en fait, c'est parce que ça paraît plus comme un théâtre, là. Parce
c'est un
que
théâtre où, d'ailleurs, aucun des comédiens ou des acteurs n'a besoin de répéter son texte.
Voilà, oui, ils connaissent, parce que c'est toujours le même texte, en fait, et ils ne savaient pas qu'ils l'apprenaient. D'ailleurs, il y a un des ouvriers, le presseur, qui est comédien par ailleurs. Mais c'est vrai qu'un atelier, c'est une scène de théâtre avec des comédiens, chacun ayant toujours le même rôle, là, contrairement au théâtre où on change de temps en temps. Et ils viennent le matin, et puis ils partent le soir, et là, ils ne rentrent pas chez eux pour manger à midi, ils amènent leur gamelle qui se faisait chauffer à l'endroit où on faisait chauffer le fer à repasser, qui est un fer à repasser à gaz. Et c'est vrai que c'est un lieu théâtral où chaque rôle est bien défini et les relations entre les individus sont...
Et par moments, d'ailleurs, quand l'un ne connaît pas sa réplique, il n'est pas très bon. Vous vous souvenez?
Oui, parce que oui, pas très bon, parce que c'est difficile, parce que voilà, c'est une situation difficile. Il y a une dame qu'on appelle Bonjour, Bonjour, parce que c'est tout ce qu'elle décide en français, vend des savons et elle dit, enfin il y a cette réplique, elle dit, est-ce que vous préfériez l'époque où le savon sentait l'être humain? Et
ça fait pas rire, hein?
Et ça fait pas rire, et il dit, là, je n'ai pas eu la réplique.
Alors Robert Bebert, vous êtes là parce que c'est vrai que ce roman, c'est vraiment, Paris est un roman, hein? Ça s'appelle Quoi de neuf sur la guerre. Et je le disais, Paris est un roman. Il vient de trouver dans votre travail une superbe illustration dans le film que vous avez réalisé en remontant la rue Villain, triple hommage à la fois à la ville que vous aimez tant, à la photographie, vous n'en êtes pas, mais vous aimez les photographes, et à votre ami Georges Perec.
De 1969 à 1975, Georges Perec est allé une fois par an rue Villain dans le cadre d'un livre en cours, provisoirement intitulé « Les lieux », dans lequel il essayait de décrire le devenir de 12 lieux parisiens auxquels, pour une raison ou pour une autre, il était particulièrement attaché. En fait, ce projet devait s'étendre sur 12 ans, de 1969 à 1980, et comporter 288 textes. Ce que Georges Perec en attendait, il s'en explique à la page 77 d'Espèce d'espace, publiée en 1974.
Ce que j'en attends n'est rien d'autre que la trace d'un triple vieillissement. Celui des lieux eux-mêmes, celui de mes souvenirs et celui de mon écriture.
Georges Perec a suivi les conseils de Raymond Queneau. Il est allé voir avant que tout ça ne disparaisse, avec méthode. Méthode dont il nous donne quelques indications. Par exemple.
Travaux pratiques. Observer la rue, de temps en temps. Peut-être avec un souci un peu systématique. S'appliquer. Prendre son temps. Notez le lieu, l'heure, la date, le temps. Notez ce que l'on voit, ce qui se passe de notable. Sait-on voir ce qui est notable? Y a-t-il quelque chose qui nous frappe? Rien ne nous frappe. Nous ne savons pas voir. Il faut y aller plus doucement. Presque bêtement. Se forcer à écrire ce qui n'a pas d'intérêt. ce qui est le plus évident, le plus commun, le plus terne. La rue. Essayez de décrire la rue. Espèce d'espace, 1974, page 70.
Le nom de Queneau revient souvent depuis le début de cette émission. Donc Pérec a suivi les conseils de Queneau. Est-ce que vous suivez les conseils de Pérec et de Queneau quand vous êtes rue Villain? Et j'ai envie de dire aussi que à elle seule, la rue Villain est un roman. En tout cas, c'est votre roman.
Ah oui, c'est vrai que c'est un roman. C'est vrai que c'est un lieu magique. Enfin, c'était un lieu magique, mythique. Queneau a écrit sur, non pas sur la rue Villain, mais sur le quartier, qui est dans un poème. Qu'on trouve dans Courir les rues, qui s'appelle Îlot insalubre numéro 7.
Et vous y avez repéré d'ailleurs pour Truffaut, dont vous avez été l'assistant, quand il tournait Jules et Jim. Vous lui avez conseillé de venir dans ce quartier de Paris.
Dans celui-là et dans d'autres, le 13e, le 14e, et puis le 20e. Et en repérant pour Jules et Jim, d'ailleurs, je suis rendu compte que, me promenant dans les rues de Lamarre, etc., je retrouvais tous les lieux où Becker avait tourné Casque d'or. C'était formidable. Je revoyais les films à travers ces lieux de Paris.
On peut dire, Robert Bebert, que vous êtes peut-être le dernier, en tout cas à ce jour, le dernier arpenteur de la rue Villain. Vous venez d'apporter la dernière pièce du puzzle en remontant la rue Villain. Oui. Enfin, l'histoire n'est pas finie, peut-être.
Oui, puisque je dis que la photographie est un défi à la disparition, donc il nous reste ça.
Paris des années 20, ce sera pour Aragon celui des cafés, où l'on s'attarde des journées entières à observer ou à écrire des vers. Ce sera le Paris de l'expérience surréaliste, avec les compagnons dont plus tard bifurqueront les routes, mais avec qui pendant 10 ans, il partagera l'ivresse d'un nouvel âge de la poésie. Regardons Aragon lui-même dans ce document tourné en 1956.
Nous étions 3 ou 4 au bout du jour, assis à marier les sons pour rebâtir les choses, sans cesse procédant à des métamorphoses, et nous faisions surgir d'étranges animaux, car l'un de nous avait inventé pour les mots le piège à loup de la vitesse. Garçon, de quoi écrire? Si je tourne mes yeux vers ces heures premières, je ne reconnais plus à leurs gestes déments. Dans l'affolement des lumières, ceux que nous fûmes un moment. Malgré tout ce qui vint nous séparer ensemble, ô mes amis d'alors, c'est vous que je revois, et dans ma mémoire qui tremble, vous gardez vos yeux d'autrefois. Nous avons comme un pain partagé notre aurore, ce fut au bout du compte un merveilleux printemps. Toutes les raisons, tous les torts n'y font rien, mes amis d'antan.
Jean-Marie Thomas, vous venez d'entendre extrait d'un portrait d'Aragon, et ça c'est vrai que c'est peut-être on peut dire la seconde orientation de la programmation de la bibliothèque sur Paris est un roman. Ce sont les portraits d'écrivains qui ont traversé le siècle. En gros, c'était le travail de la télévision il y a quelques années, et puis maintenant, bon, ce sont des programmations ou qui n'existent plus, qui sont tardives, et on retrouve ça à la bibliothèque de Paris.
Oui, on trouve beaucoup de portraits de gens qui ont vécu à Paris, qui sont arrivés à Paris très jeunes et qui ont vécu entièrement.
Et Aragon a aimé Paris. Hein. Il y a des pages absolument extraordinaires.
Oui, bien sûr. Mais moi, ce qui m'émeut encore plus, c'est tous les étrangers qui, à un moment ou à un autre, font de leur ville Paris et la manière dont ils en parlent. C'est très émouvant de rencontrer des gens qui, à un moment ou à un autre, soit pour une question d'exil, soit parce que, après la guerre de 14, les Américains se trouvent mal dans leur peau en retournant chez eux et viennent vivre en France. Tous ces Américains qui vivent à Paris, qui vivent en général très très proche des quartiers. C'est une expérience extraordinaire. C'est que tous ces gens, quand ils arrivent à Paris, vivent vraiment au ras des trottoirs, dans les maisons, dans les couloirs, au niveau des Parisiens avec qui ils ont un dialogue. Ils sont dans une soif de connaissance. connaissances, de rencontres, peut-être de la solitude. Et ils parlent tous de Paris, de la chair de Paris, d'une façon merveilleuse.
Alors en commun, Mohamed Boujédra et Robert Beubert, c'est que vous, tous les deux, vous êtes arrivés à Paris quand vous étiez jeunes. Alors, un an et demi, dans le cas de Robert Beubert, vous aviez 3 ans, vous, Mohamed Boujédra, quand vous êtes arrivé à Paris. Alors, est-ce que, comme le dit Jean-Marie Thomas, l'un et l'autre, vous vous installez dans des quartiers où, finalement, les gens de votre communauté d'origine s'étaient déjà installés dans Paris ? Et est-ce que Paris vous est apparu comme un roman quand vous étiez enfant ?
Oh non, quand on est enfant...
Ou assez vite.
La littérature. Oui, assez vite. C'est un endroit de fiction, ça c'est sûr. De roman, vous savez, c'est déjà une notion un peu élaborée, le roman. Mais non, moi ce que je garde comme souvenir de Paris, c'est qu'il y avait des itinéraires ataviques, c'est-à-dire qu'il y avait des itinéraires qui nous étaient permis et d'autres non, c'est-à-dire que Paris est un assemblage en fait, c'est pas une ville, c'est un assemblage. Et il y a des endroits qui nous sont interdits, non pas parce qu'il y a des barrières, ou alors il faudrait parler de barrières diaphanes. C'est-à-dire que
on se crée des frontières, ou en tout cas les autres, vous les créez aussi.
Oui, vous savez, c'est un
absolument,
mélange,
c'est entre les autres. C'est l'ambivalence, voilà. Oui.
Mmh. Alors moi, je garde le souvenir d'endroits où je n'osais pas aller, et maintenant quand je l'ai...
Vous n'alliez pas dans le 16e arrondissement, je crois, ou dans le 15e, ni même
oui,
dans le 15e.
Le 16e arrondissement, pour moi, n'existait pas, c'était une autre planète. Le 15e aussi, mais par exemple, je pense aux Batignolles. Par exemple, si on parle de Barbès-Rochechouart, un quartier voisin, c'est les Batignolles. Pour moi, les Batignolles, c'était une autre Chine, par exemple. Et j'ai gardé encore aujourd'hui, alors que je suis architecte et je me promène dans Paris sans entrave, je garde encore le souvenir de ces anciennes coutures, de ces anciennes lisières. Et je prétends que, moi j'en souffre encore, mais que beaucoup de gens, et je crois que peut-être une majorité de Parisiens, souffrent de ces lisières, c'est-à-dire que chacun a ses propres territoires interdits.
Et alors aujourd'hui vous avez aboli les lisières dont vous parlez ?
Bah, par la culture, oui, et puis parce qu'au bout d'un certain nombre de décennies, on se force quand même.
Jean-Marie Thomas ?
Oui, moi je suis arrivé à Paris tard.
Vous n'êtes pas parisien non plus ?
Je ne suis pas parisien, je venais de Provence. Et très paradoxalement, j'avais des amitiés dans le 12e et je vivais dans le 9e. Et je suis passé pendant des années rue de Rivoli sans jamais pénétrer dans les Halles. Et la première fois que je suis allé aux Halles, c'est au moment où il y avait Orlando Furioso, parce qu'on était en train de les détruire, etc.
Dans le trou.
Mmh. Et je crois que pour ce qu'il y a d'extraordinaire, à mon avis, pour les trois quarts des gens qui émergent un jour dans Paris, c'est que Paris est une ville qui est très impressionnante. J'étais à Prague il y a un mois. C'est la rive gauche. Bon, quand on est à Paris, c'est vrai que Paris d'une part intérieur et la banlieue, c'est un territoire immense. Et je crois qu'on n'arrive pas à l'appréhender tout de suite.
En tout cas, le destin vous a rattrapé puisque maintenant vous travaillez. Votre bureau est au Havre.
Oui, c'est ça qui est drôle, c'est que
enfin, vous êtes détourné des Halles pendant très longtemps.
Bien sûr. Non, mais ça c'est plein d'ironie, mais c'est pour ça que l'image est si importante. C'est parce qu'elle nous permet d'appréhender des endroits où on ne va jamais. Moi, je suis toujours déçu quand je vais dans des villes dont je connais bien le cinéma.
Alors, puisque nous parlons d'ailleurs du passage de l'écrit à l'image, je vais demander et à Robert Beubert et à Mohamed Boujédra s'ils envisagent d'ailleurs de porter à l'écran ou de faire porter à l'écran leur livre. Mais d'abord un mot, Mohamed Boujédra, parce que c'est vrai que Barbès Palace, qui est donc votre premier roman, qui vient de sortir aux éditions du Rocher, est un roman qui convient d'ailleurs parfaitement pour cette émission Paris est un roman, parce que c'est le roman d'un quartier parisien, la Goutte d'Or, qui a été longtemps stigmatisé, qui l'est peut-être encore un peu, et qui a été la zone refuge et tampon, si je puis dire, d'un certain nombre des militants du FLN au moment des événements 1960, 61, 62. C'est ça que vous vouliez faire apparaître dans votre roman ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire sur Paris. Alors, brièvement, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours, c'est d'écrire sur Paris. C'est très difficile d'écrire sur Paris.
Est-ce que vous envisagez de filmer un jour ?
Bien sûr, mais...
D'accord. Pour l'instant, c'est écrire. C'est la première partie.
Mais je voulais écrire quelque chose sur Paris, une fiction. Alors, de fil en aiguille, on en est amené à parler de ses origines. Et je me suis dit, bon, parlons de Barbès, puisque Barbès il y a. Et à partir de là, vous voyez, je vous donne toutes les recettes, ou toutes les ficelles. Je me suis j'ai dit quel était l'intérêt dramatique de ce quartier. Et soudain, la guerre d'Algérie m'est apparue. Mais je voulais parler des façades. Et je voulais parler de cette enclave qui est pratiquement dessinée autour de, en deçà des frontières que sont le, cette espèce d'ignominie qui est le métro aérien qui passe à côté de la rotonde de Ledoux, par exemple. Et avec des boulevards qui sont tirés au cordeau, etc. Et c'est ça qui m'intéressait. Mais je vous signalerai...
Barbès Palace peut être un film. Hein. Je veux dire, quand on a lu le livre, et c'est vrai, on va en dire un mot, parce que c'est un lieu qui a existé, qui est d'ailleurs magnifique sur le plan de l'architecture, là vous en parliez avant l'émission.
C'est Louis-Philippe, oui.
Et qui existe toujours. Alors dans le roman, c'est un lieu où se croisent quand même les combattants, en tout cas les combattants du FLN, et un certain nombre de prostituées parisiennes.
Oui, il y avait des bordels de battage.
L'auteur dit que c'est le pays de la douceur perdue.
Oui, parce que quand on est enfant, vous savez, et qu'on grandit dans...
Oui, là c'est votre imagination qui vous fait parler, parce que c'est quand même une violence.
Mais vous savez, j'ai
entendu... À la fois les événements et le...
Toutes les enfances, enfin tous les pays d'enfance sont généralement des pays de douceur perdue, sauf quand on a le malheur de les passer sous la botte nazie ou que sais-je encore.
Ou de les perdre plus définitivement,
oui,
comme certains.
Tout à fait. Mmh. Mais enfin, quand ça se passe plutôt mal, mais pas trop tragique, c'est encore le pays de la douceur
Donc
perdue.
Donc ça allait encore.
Et puis il y a l'imagination
d'être
de l'enfance.
D'être un gamin à la goutte d'or dans les années 65, ça allait encore, oui.
61, puisque la guerre d'Algérie s'arrête en 62. Oui, mais parce que il y a tout un, c'est très exotique, vous savez, le quartier de la Goudeur à ce moment-là. Et les Français sont exotiques. N'oubliez pas que quand vous êtes étranger ou étrangère et que vous voyez ces gens qui sont de peau blanche, etc., qui ont des us et coutumes absolument extraordinaires, comme aller à la messe le dimanche, comme manger du poulet le dimanche midi, etc. Tout ça, c'est un sujet d'étude extraordinaire. Leur accent, leur façon. Et moi, j'ai essayé de retranscrire ça, c'est-à-dire que je me suis dit que c'était un pays étranger que la Goutte d'Or, mais non pas pour les étrangers qui y vivaient, mais pour les Français qui y vivaient. Vous voyez, c'est très paradoxal.
C'est un quartier exotique. En tout cas, pour en revenir au thème de notre émission, c'est vrai, vous le dites, enfin, je vous l'ai entendu dire que le cinéma est un vecteur de choix justement pour ce Paris colonial, ce Paris 1930, etc. Parce que d'abord, il y a des cinémas de quartier qui sont assez formidables. Vous êtes d'accord, Alain Pocard?
Oui, sur les cinémas de quartier, toujours.
Toujours. Et c'est vrai que donc le cinéma est un vecteur de ce Paris colonial.
Le cinéma est un vecteur colonial. D'abord, il faut rappeler, mais Alain Pocard le sait, le mythe du légionnaire. Et puis, les films qu'on a fait avec les premiers chansonniers en 1900, etc. Bouboule, Roi Nègre, etc.
Ça se passe à Paris.
C'est le quatrième.
Non, mais... Pardon ?
C'est le quatrième de la série.
Hommage à Milton. Milton, voilà.
C'est tourné à Paris dans des décors d'une Afrique reconstituée.
Mais écoutez, il y a une chose extraordinaire dans le cinéma du début du siècle, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce cinéma-là. Le cinéma exotique qu'on tournait à Paris. Par exemple, quand vous vous intéressez aux 5 sous de la Varède, où Fernandel fait le tour du monde sans quitter les studios de Biancourt, je crois, ou quelque chose comme ça.
Je me demande si c'est pas la Victorine.
Peut-être la Victorine.
Attention, mon oncle, par exemple, qui est censé se passer dans la région parisienne, a été tourné à la Victorine.
Bon, alors, toutes les excuses.
Ça ressemble tellement au terrain vague de la région parisienne, mais enfin, tant pis.
Mais moi, Paris, le cinéma de ce Paris-là me fascine. Par exemple, si vous prenez la série des vampires de Feuillade, ou si vous prenez Paris qui dort de René Clair, vous avez là un Paris qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, où pour les focales qui étaient extrêmement faibles à l'époque, on éclaire la façade du plan, et où c'est un Paris onirique, c'est un Paris qui se donne à rêver, c'est un Paris décalé par rapport à la réalité, où les encorbellements sont soulignés d'ombre, etc. Moi, c'est ce Paris-là qui m'intéresse, vous voyez, c'est ce Paris qui me fascine, c'est-à-dire un Paris qui n'a jamais existé.
Où est-ce qu'on pourrait le tourner, le Paris de Barbès Palace?
Sans doute en studio, mais ça serait les Américains. Parce que...
Alors aujourd'hui, c'est un magasin de chaussures?
Hélas, oui. Enfin, hélas, ou peut-être tant mieux. Mais j'ai rencontré le propriétaire de ce magasin de chaussures et il a des velléités de beaux-arts et il fait restaurer les stucs baroques au-dessus des étals de chaussures et je trouvais que c'était bien.
Alors Jean-Marie Thomas, on en revient à ce qui se passe à la vidéothèque. On va entendre quelques extraits et ensuite je vous donne la parole. C'est vrai que cette programmation a le mérite de faire revivre, entendre par la voix, c'est ce que vous disiez, par la parole, par le sourire ou par les colères, un certain nombre d'écrivains qui ont traversé le siècle.
J'ai écrit très tard pour le cinéma. Ça fait longtemps que je cherchais un métier. J'ai cherché parce que je ne pouvais pas faire autrement. fallait bien que je fasse quelque chose. Cinéma, ça me plaisait, j'aimais le cinéma. Alors j'ai fait du cinéma, c'est-à-dire que j'ai écrit le scénario. Puis après, j'ai écrit d'autres choses. C'est devenu comme ça, mon métier d'écrire. Mon métier.
Un métier que tu aimes?
C'est celui que je préfère. Mais j'aime pas seulement le travail.
Si l'on peut dire, je ne collectionnais pas, mais enfin je lisais beaucoup les faits divers dans les journaux. L'amour du sensationnel. Alors, c'est peut-être ça qui en somme, j'étais destiné à la fois à être poète et à écrire des romans d'aventure, et surtout des romans d'aventure policiers, certainement.
Le héros principal de cette. De ce roman, j'avais appelé Nestor Burma comme ça, parce que je trouvais que ça sonnait, c'était sonore. Quoi. On m'avait dit, un peu baraque foraine. Là, il a des réparties qui sont les miennes, vous comprenez? Ça n'est pas impunément que ce sont des bouquins écrits à la première personne. Mais alors ensuite, petit à petit, il y a eu une espèce d'osmose qui s'est produite. Alors je ne sais pas si c'est lui qui me ressemble ou si c'est moi qui ressemble à lui. À quelques détails près, hein. Parce que lui, par exemple, il saute dans les plumes du premier type venu. Il est plus grand que moi, il n'a pas de lunettes, il est plus costaud. Il y a tout un tas de détails physiques. Mais d'ailleurs, il n'est pas décrit. Vous comprenez? Puisque les romans écrits à la première personne, on ne sait pas comment il est. Et moi-même, je ne sais pas comment il est. J'étais en période de fauche. Et alors, en me promenant non loin de la Tour Eiffel, un jour, comme ça, je regardais Paris avec nostalgie. Et je me suis dit, quand même, Paris, quel décor prestigieux qui n'a jamais été suffisamment exploité, me semble-t-il. Genre le cinéma, Louis Feuillade, avec les vampires, et puis les reconstitutions de Fantômas, il avait fait quelque chose, mais c'était loin, tout ça. Alors je me suis dit, ce serait assez rigolo de faire des romans policiers qui seraient assez, paradoxalement, des romans en local clos et en même temps en plein air. C'est-à-dire un roman se passant dans un arrondissement, les personnages ne pouvant pas en sortir, local clos, et en même temps en plein air, et en décor naturel. Alors je me suis ouvert de cette idée à Maurice Renaud, le directeur de Mystère Magazine. Il me dit, ce serait une excellente idée, on appellerait ça les nouveaux mystères de Paris. Un crime par arrondissement, le slogan est assez mensonger, car dans mes bouquins, il y a plusieurs crimes. Et puis alors, un roman par arrondissement, bah ça c'était mensonger aussi, parce qu'il n'y en a eu que 15 au lieu de 20.
Comme on laisse à l'enfant, pour qu'il reste tranquille, des objets sans valeur traînant sur le parquet, peut-être, devinant quel alcool me manquait, le hasard m'a jeté des photos de ma ville. Les arbres de Paris, ses boulevards, ses quais. Plus le temps passera, moins il sera facile de parler de Paris et de moi, c'est Paris. C'est Paris, ce théâtre d'ombre que je porte, mon Paris, qu'on ne peut tout à fait m'avoir pris, pas plus qu'on ne peut prendre à des lèvres leur cri. Que n'aura-t-il fallu pour m'en mettre à la porte? Arrachez-moi le cœur, vous y verrez Paris.
Jean-Marie Thomas, vous avez forcément reconnu Prévert, puis Léo Mallet et Aragon. Quelques valeurs sûres donc de la série de portraits qu'on va pouvoir voir à la vidéothèque.
Il y a un extraordinaire portrait de Cocteau par Roger Céphane.
Il y a un gîte qui n'est pas mal non plus.
Il y a le gîte avec quelque chose de tout à fait étonnant. C'est que Pierre de Brandberger m'avait dit tu prendras la version longue, parce qu'il y avait une version de 20 minutes et une version d'une heure et quelques. Il m'a dit, tu prendras la version longue. J'ai pris la version longue. Le négatif est détruit et la vidéothèque possède donc la seule copie dans le monde, sans doute, qui existera de ce film. Donc, il faut le voir. Je parle de musique, littérature, etc. Mais il y a aussi Genet, qui est très intéressant. Il y a les deux portraits de Sartre, les deux portraits les deux épisodes sur le portrait de Sartre qui sont très, très extraordinaires. Je crois que si on déclinait tous les écrivains, pratiquement, il y a de chacun des images et des entretiens qui sont vraiment très étonnants. Il faut regarder le programme au jour le jour.
C'est ce que regardait Robert Beveris. Est-ce que vous avez vu, vous êtes sûr que Casque d'or, vous allez pouvoir le revoir pour la 20e fois?
Je dis 20e, c'est peut-être 21e.
En tout cas, pour une prochaine session, peut-être que votre travail sur la Butte-aux-Cailles sera prêt, puisque vous avez un peu abandonné la rue Villain, qui a été d'ailleurs très longuement, très largement encombrée par d'autres photographes, parce que c'est vrai qu'il y a un travail d'assemblage qui... À la fois, je ne sais pas si ça embrouille votre travail.
Non, moi j'aime bien quand il y a une multitude de regards, surtout quand ces regards se font à l'insu les uns des autres. Les gens sont dans un lieu, ils sont fascinés par ce lieu, ils le photographient, sans savoir que la veille ou le lendemain, quelqu'un d'autre va faire un travail approchant ou lointain. Et puis bon, moi mon travail c'était d'essayer de comprendre tout ce qui a été fait... sur le temps. Est-ce que je peux revenir un petit peu en arrière si on a 30 secondes?
Oui.
Parce que moi j'aime bien l'histoire des lisières dans les quartiers. Je dis bien lisières, pas frontières. Hein. Oui. Je déteste.
Robert Beveris n'est pas pour l'abolition des lisières. L'abolition des frontières, voilà. Mais pas pour l'abolition des lisières parisiennes.
Je déteste les frontières, mais je trouve que lisières c'est très très bien. Parce que, ça n'existe plus maintenant, mais il fut un temps où. On pouvait reconnaître les accents de quartier. On ne parlait pas de la même manière. Alors, je ne parle pas du 16e, oublions-le, celui-là.
Mais personne ne sait où c'est, d'ailleurs.
Voilà.
16e, on entendait beaucoup d'accents espagnols. Hein,
C'est après.
Mais il y a un accent du 16e très prononcé.
Oui.
Non, mais moi, les Portugais,
l'accent de Belleville n'était pas le même que l'accent de Montmartre, n'est pas le même que l'accent du 3e, du 4e arrondissement. Et il y avait des gens qui savaient reconnaître ça. Et je trouve que c'est très important. C'est ce qui donne aussi l'identité, pas seulement au quartier, mais aux gens qui y habitent. Moi, je suis plutôt pour...
Mouvement de défense pour sauvegarder donc les accents des quartiers parisiens.
Oui, puis on trouve tout de suite, je reprends en 30 secondes si vous permettez, le petit, dans mon bouquin...
Quoi de neuf sur la guerre.
Il y a un enfant qui arrive de Pologne, il arrive à la gare de l'Est, il a simplement... En poche.
Mais alors le livre justement ne rend pas l'accent. Hein.
Moi je crois qu'il rend l'accent.
Tout le monde.
Je crois qu'il rend l'accent, il rend la musique de l'accent, c'est ce qui est essentiel. Et
alors le gamin arrive gare
de l'Est. Il arrive gare de l'Est avec uniquement le nom de son frère dans la poche. Et il descend naturellement le boulevard Magenta vers la République et il voit une affiche du théâtre yiddish. Et il s'assoit devant et il attend. Et il sait que la première personne qui lira cette affiche... pourra lui donner l'adresse de son frère. Je crois que c'est ça, les quartiers.
Il va retrouver son frère.
Je crois que les quartiers permettaient, en tout cas.
Permettaient, oui. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, à de très rares exceptions, peut-être.
Alain Pocard, je rappelle que vous êtes écrivain. Vous avez d'ailleurs publié, vous aussi, aux éditions du Rocher, un roman, qui s'appelle Le Roman de Paris.
C'est pas un roman.
De petites histoires sur le roman, finalement.
C'est très exactement des chroniques.
Des chroniques qui est le roman de votre famille parisienne.
Oui, et puis de la mienne aussi.
Oui, de votre famille parisienne.
Voilà, c'est cela, oui. Oui, le problème de... J'ai trouvé en plus dans le Littré qu'il y avait une vieille définition de roman qui n'excluait pas du tout l'absence de fiction dans le roman. C'était uniquement quelque chose de narratif. Donc pourquoi raconter des histoires? On peut raconter effectivement nos mémoires.
Donc ces petites chroniques, ce sont des courts-métrages?
Peut-être, oui, pourquoi pas. Vous avez vraiment envie que tout le monde ici autour de la table fasse des films.
Hein.
Vous êtes passionné, vous voulez qu'on fasse des films et tout.
J'aime bien le passage du roman au cinéma, c'est le thème de l'émission.
Ouais, très bien.
Alors, on reprend votre liste.
Alors, je vous ai préparé pour les années 70.
On vous avait quitté en 70 et vous m'avez dit que ceux qui n'ont pas connu Paris avant 1970, en fait, ne connaissent pas Paris.
Non, je pense que vraiment, quand on n'a pas connu Paris avant 68-70, on ne sait pas ce que c'était
Paris. Donc, il faut aller au cinéma.
Alors, il faut aller voir celui-là, 3000 milliards sans ascenseur, qui de 1972, de Roger Pigot, ex-comédien. Et qui ne se passe pas à Paris, mais vous m'en voudrez pas. Ça se passe dans le bas de... Oui, c'est ça, plutôt La Défense. C'est tout un groupe de copains un peu désœuvrés. Il y a Reggiani, Bouquet, Bozuffi, Fresson, Dany Carrel, Victor Lanoux et Françoise Rosay, qui sont vraiment mais révoltés par ce qu'on est en train de faire de leur quartier. Et ils s'aperçoivent qu'au 27e étage d'une tour, il y a une exposition de joyaux. Alors ils vont faire un casse. Ils se font aider par un gangster, enfin peu importe. Et à la fin du film, après avoir réussi à récupérer non pas l'argent du casse de la vente des bijoux, mais l'argent de l'assurance, car ils ont réussi à doubler le gangster avec lequel ils s'étaient liés. En ce sens, ce sont de bons Parisiens. Il y a une dernière scène comme ça où ils voient une publicité. On est en train de construire une tour à Montparnasse. Ce sera la hideuse tour Montparnasse. Et ils se disent, à nous deux, non pas Paris, mais à nous deux, cette nouvelle tour. Et ce que je trouve très beau dans ce bon film, sans prétention, mais très regardable, c'est cette haine quand même du vieux Parisien pour cette invasion de Martiens qu'ont été dans les années 70 les tours, qui étaient complètement contraires à l'esprit de Paris, cette architecture hideuse. Et malheureusement, il faut bien dire qu'on vient de nous en coller quatre nouvelles dans le 13e arrondissement. Et à propos de 13e arrondissement, on parlera du cinquième film. Et alors là, c'est un film assez connu.
C'est le dernier de votre liste.
Oui, 1984.
Oui. Enfin, les années 80.
C'est Pino, simple flic de notre cher Gérard Jugnot, qui se déroule dans les bons quartiers, les bons côtés du 13e, ce qu'il en reste, car lui aussi, le 13e a été largement détruit, comme après une tornade ou un bombardement. Et alors, j'ai pris ce film bon, pour deux raisons. D'abord, et ça reviendra peut-être, ça fera peut-être un lien avec mon ouvrage. D'abord, Pino est flic dans ce Pino, simple flic, mon père était flic. Et puis, c'est un film où on voit encore des vrais flics. Comme autrefois, c'est-à-dire avec des képis. Rendez-nous les képis et non ces odieuses casquettes américaines. Est-ce que vous reconnaissez vos marques avec des flics en casquette? On a toujours l'impression que ce sont des livreurs de la Brinks ou des choses comme ça. Écoutez.
Est-ce que vous connaissez cet extraordinaire document qui s'appelle Les Primitifs du 13e?
Oui, je l'ai vu.
Qui est un court-métrage dans lequel les flics ont non seulement des képis, mais en plus ils ont des vélos, en plus ils ont les pèlerines et en plus ils sont dessinés par des enfants et les commentaires des enfants ont été choisis par Prévert et c'est Arletty qui les dit. Oui. C'est une vraie merveille.
C'est, en tout cas, s'ils ont là, il y a peut-être une erreur de mémoire là, car s'ils sont à vélo, ce sont des hirondelles, ils ont des casquettes.
Voilà, ça doit être des petits.
Alors attention.
Jean-Marie Thomas, le mot de la fin, vous nous donnez envie d'aller à la bibliothèque, alors quelques inédits qu'on peut voir.
Oui, il faut voir, il faut venir voir Chant d'amour de Genet, enfin qui est vraiment un film qui a été interdit pendant des années, qui est un merveilleux hommage à l'amour. Je crois qu'il faut voir cela. Il faut voir La ville des Misola d'Iterle. C'est vraiment un inédit, c'est un film qu'on connaissait par les encyclopédies mais qu'on n'a pas vu. Et du même d'Iterle, on peut voir d'ailleurs une extraordinaire adaptation de Notre-Dame de Paris qui s'appelle Quasimodo, qui est sans doute le plus bel hommage au Moyen-Âge qu'aient fait les Américains. On peut voir, à mon avis, En remontant la rue Villain et Les lieux d'une fugue de Pérec, qui sont deux très 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 beaux films de Pérec ou à propos de Pérec. On peut voir Le portrait de Cocteau, je crois que c'est un écrivain à redécouvrir. Il y a aussi à propos de Wiesel, Le testament d'un poète juif assassiné. Et puis il y a Les Américains aussi, il y a un très beau Baldwin de Karen Thorsen.
Voilà, Les Îles de France est terminé. Ont participé à cette émission Robert Baber, Mohamed Boudjedra, Alain Pocard et Jean-Marie Thomas. À lire les livres dont nous avons parlé, Quoi de neuf sur la guerre, Barbès Palace et Le roman de Paris. À voir les programmes de la vidéothèque, Paris est un roman, prise de son et mixage, Alain Chéroux, Yvan Charby, Emmanuel Colcher, collaboration vidéothèque, Anne Marast, documentation, Myriam Collet, réalisation, Pascal Rayet.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 mars 1994, date où l'actuel Forum des images, en plein cœur du Forum des Halles à Paris, s'appelait la Vidéothèque de Paris. You set your light on me. Pixels starting up my stream. Banging on my door, girl.